marchande de sable, juste après Dresseuse d'ours, les histoires brutes et non romancées d'une jeune médecin généraliste, de Jadot. Mot d'amphi, ce n'est plus ton petit doigt qui me chatouille. Première année de médecine, P1 pour les intimes. Midi et demi, j'ai fini mon sandwich, je vais prendre mon poste. Assise dans le couloir, en tailleur contre la porte de l'amphi et au milieu d'une petite dizaine d'autres étudiants, je révise. 13h, ça s'accumule un peu, tout le monde assis, certains révisent, certains mangent en révisant, certains discutent de leur révision. 13h30, foule, les premiers rangs près de la porte assis, les derniers rangs debout. 13h35, on entend un cliquetis de clé derrière la porte. Murmure, une onde court dans la foule, les derniers des premiers rangs se lèvent, je soupçonne le concierge de le faire exprès. 13h40, ça cliquette sévère, ils sont presque tous debout. Une petite bande d'irrésistibles dont je suis tient le coup, assise, stoïque, au milieu des genoux. Nous serons forts et nous resterons assis le plus longtemps possible. 13h45, je craque, je me lève, on commençait à être vraiment pressé par tous ces genoux. 13h50, ça cliquette vraiment, il est juste derrière la porte, on entend la clé qui joue dans la serrure. Ça presse bêtement derrière, j'ai la poignée de la porte qui me rentre dans le ventre. 13h51, la porte s'ouvre, le départ est lancé, la foule s'éparpille en courant. Je dévale les escaliers et je réussis à nous avoir le deuxième rang, comme toujours. Je bénis silencieusement une nouvelle fois mes amis. Comme je suis la seule à ne pas avoir de voiture, quand on s'est répartis les jours, ils m'ont laissé le lundi après-midi et se sont partagés les jours où on a cours le matin. Pour eux, pour le cours de 8h, l'attente commence à 6h30, dehors, contre les portes de la fac, et ils ont vachement plus loin à courir que moi. La rumeur courait qu'une fois en février, le veilleur de nuit avait retrouvé une fille contre la porte à 4h du mat avec son thermos de café. Le syndrome de glissement ? Attendez, je savonne la pente. Mot de médecin. Elle a pissé, mamie ? Elle s'est cassée le col du fémur. Elle est tombée toute seule chez elle et elle est restée plusieurs heures par terre, toute seule, trop loin de son téléphone, avec seulement la peur au ventre et l'espoir que quelqu'un arrive vite. Pardon si ça fait un peu pleuron dans les chaumières, hein. C'est juste que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Au bloc opératoire, on l'installe sur une table, couchée sur le côté, à cheval sur une espèce de grosse bite en plastique blanc qui va permettre d'installer sa jambe dans la bonne position pour l'opération. Elle est complètement nue, les jambes écartées, dans l'indifférence générale des 10 ou 12 personnes qui vont et viennent dans la pièce, et dont les yeux médicaux sont tellement habitués à la nudité qu'ils ne la voient plus. Elle n'est pas habituée. Elle est à un drap de la dignité, elle est à moitié sur sa bite blanche et à moitié sur son Alzheimer, elle hésite et la prochaine demi-heure va lui sembler très longue. J'ai été admise au bloc, exceptionnellement, en tant qu'étudiante, en tant qu'observatrice, pour voir l'opération. Je suis en deuxième année, je ne sers à rien, j'encombre un peu, on m'a posée dans un coin de la pièce, à quelques mètres d'une armoire pleine de draps. Il suffirait de quelques gestes de quelques mètres pour que j'aille couvrir la dame. Et bordel, j'en ai envie. Elle me fait de l'œil, l'armoire. Elle chuchote mon nom. Et puis quelque chose me retient, je ne sais pas quoi. Ma connerie sans doute. Mon costume de souris. Ma blouse pas assez blanche. Je sais que ce serait au mieux un geste dérisoire sous les goguenards de l'équipe. Au pire, un accident diplomatique qu'on rapporterait à grands cris au chef de service. J'ai peur d'être ridicule. Je reste clouée sur place en me répétant. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Des années plus tard, parfois, je me surprends à avoir un peu oublié. Je crois que j'ai dû faire des choses du même goût, parfois, rarement, moins pire, la fatigue et les années, et l'habitude aidant. J'essaie de me souvenir. Flottement. Mot de passion. Vous savez, à mon âge, mourir de ça ou d'autre chose. Elle a 96 ans. Elle pèse 36 kilos. Envoyée aux urgences par sa maison de retraite pour des douleurs abdominales sur constipation opiniâtre. On dirait une grand-mère de livre, une grand-mère de film, les cheveux très blancs, encore longs, toute petite, toute frêle, un filigrane. Elle parle d'une voix douce, voilée, lointaine, souriante malgré tout. On dirait qu'elle abrite un espace-temps parallèle où tout s'écoule plus doucement. Tout en elle flotte, sa voix flotte, son corps flotte au milieu d'une peau trop grande pour elle. Son existence même semble flotter quelque part entre ici et ailleurs. Rien de parcheminé dans sa peau, rien de sec, rien de cassant. Ratatinée sa peau, fripée, plissée comme un trop grand morceau de cuir souple qu'on aurait replié autour d'un corps devenu trop petit. On suit ses os des yeux et la main sur son ventre, on plonge au cœur des viscères. Il n'y a rien entre ses intestins et sa main, rien que sa peau trop fine. Je passe 30 minutes ou moins à extraire ses selles à la main. C'est incroyable qu'un aussi petit bout de femme puisse contenir autant de merde. Je lui fais super mal. Elle pleure comme elle parle, voilée, lointain. Elle me dit merci parce qu'elle a moins mal quand j'ai fini. Ce n'est pas qu'elle soit si constipée. Je ne vois tout simplement pas avec quelle force et quel muscle elle pourrait faire le simple effort de pousser pour sortir tout ça elle-même. Elle n'est malade de rien. Au siècle, on doit forcément être malade de quelque chose. Même les chiffres, les implacables chiffres qui prouvent noir sur blanc une maladie bien nette et sans bavure, même les chiffres ne parviennent pas à trouver de quoi elle meurt. Ses reins fonctionnent, son cœur fonctionne, sa tête fonctionne, et pourtant elle meurt, au ralenti, en flottant, comme une chandelle qui s'éteint tout doucement. Elle meurt de rien, elle meurt de tout, elle meurt de la vie, ça arrive encore. Antoc, mot de médecin. Vous avez une inflammation de l'os, on va vous faire une scintigraphie. Elle a 82 ans, il est son médecin généraliste depuis pas loin de 30 ans. Moi, j'assiste à ses consultations depuis pas loin de 2 semaines, dans le fauteuil de droite, celui où j'ai appris à bâiller en écartant que les narines d'un air concentré. Pour une douleur de dos qui ne passait pas, il a fini par adresser la dame au rhumato, qui a demandé une IRM, qui a montré une métastase, probablement d'un sein ou d'un poumon. Pour elle qui n'a jamais fumé, optons plutôt pour le sein. En recevant les résultats de l'IRM, le rhumato qui n'a vu la patiente qu'une fois passe très logiquement un coup de fil au médecin généraliste, lui expliquant la situation et lui demandant de gérer l'hospitalisation. Le médecin passe quelques coups de fil, trouve miraculeusement à la dame une place dans un service de cancéro le jour même et part en visite chez elle pour organiser tout ça. Je l'accompagne sur le siège de droite. Sur la route, dans la voiture, il rumine. Ça m'embête quand même de l'envoyer au cancéro. Elle n'est pas bête, elle va comprendre. Ah, parce que tu ne comptes pas lui dire. On va la sortir voir chez elle, là, pour l'hospitaliser. Tu es son médecin, son généraliste, son médecin traitant, son médecin de famille, et tu comptes lui dire quoi, au juste? Je me demande si on n'aurait pas dû l'envoyer d'abord aux urgences. Bah oui, bien sûr. Cher confrère, j'ai pas envie de m'occuper de l'hospitalisation. Tu peux t'en charger, s'il te plaît? Allez, bisous. Comme ça, elle va atterrir aux urgences, pour une non-urgence, à 15h. Elle va rester dans la salle d'attente jusqu'à 19h. Elle va être vue par un médecin qui ne la connaît pas. Les services seront fermés. On ne pourra pas organiser l'hospitalisation le jour même. Elle va passer la nuit sur un brancard pour qu'au final, elle finisse par être hospitalisée en cancéro, tout pareil. Sauf que c'est un médecin qui ne l'a jamais vue de sa vie et qu'elle n'a jamais vue de sa vie qui va soit l'hospitaliser sans rien lui dire comme tu comptes le faire, soit lui dire la vérité. Tellement mieux. En arrivant chez elle, il lui parle de bilan à faire et d'ostéite. Il marmonne, il grommelle, il appelle l'ambulance. Il demande 32 € s'il vous plaît, madame. Il me dit de faire le courrier, mais il ne connaît pas ses antécédents. J'écris « Je vous envoie comme convenu, madame cancer, dont je n'ai pas le dossier sous les yeux. PS, elle n'est pas au courant du diagnostic. PPS, bisous. » Et je signe de son nom. « Je t'appelle un taxi, chérie ?» Message du secrétariat. Appel du docteur X. Souhaite que vous fassiez un bon de transport pour un patient commun MA. Aller-retour 27 février au 6 mars inclus. Le matin en hôpital de jour. Ne souhaite pas faire directement le bon de transport à cause de sa spécialité en tant que psychiatre. Pour renvoyer les gens chez eux depuis l'hôpital, on a plein de chouettes moyens. L'ambulance, pour ceux qui doivent être couchés ou dont l'état nécessite un rien de surveillance et de matériel. Le taxi, pour les gens qui vont bien. Le VSL, véhicule sanitaire léger, une espèce d'intermédiaire entre les deux. Le tout étant plus ou moins remboursé et plus ou moins de tout de suite, selon des conditions obscures que je n'ai jamais vraiment réussi à comprendre, mais qui font quand même que bon, dans le principe, on peut renvoyer les gens chez eux de manière à peu près adaptée à leur état et avec un budget à peu près cohérent. Ça a l'air drôlement bien pensé. En 7 ans d'hôpital, je n'ai jamais vu un VSL. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Les infirmières m'ont toujours ri au nez quand j'ai essayé d'en faire demander un. Ha ha ha, mais il n'y en a pas des VSL. Ah bon, comme ça, pouf, il n'y en a pas. Ah bah non, il n'y en a pas. Partout où je vais, il n'y en a pas. Le VSL, je crois que c'est une petite ligne sur le formulaire de transport parce que ça faisait plus joli, ou une vaste blague des gens qui essaient de nous faire croire qu'on limite les dépenses de santé, ou un complot mondial quelconque. Rien avec des roues, en tout cas. Les taxis, c'est une autre histoire. Non, en fait, c'est plein d'autres histoires. Ah, mais les taxis viennent pas après 2h du matin. Ah, mais les taxis viennent pas ici parce que c'est trop excentré. Ah, mais les taxis viennent pas ici parce que c'est trop dangereux. Ah, mais les taxis viennent pas parce qu'ils sont jamais payés par les patients et ils veulent plus venir. Ah, mais les taxis viennent pas parce qu'ils viennent pas. Donc, il reste l'ambulance et sa demi-fortune au kilomètre. L'ambulance pour tous. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que je fais de la vieille dame qui ne va pas si mal, mais qui se déplace à peine, qui ne sort plus de chez elle et qui ne pourra juste pas monter toute seule ces 3 étages. Le type qui va très bien mais qui a 2 bras et une jambe dans le plâtre, une valise et pas d'ascenseur. Les 800 000 types qui sont venus aux urgences en pleine nuit avec les pompiers et qui vont parfaitement bien sauf qu'il est 4h du mat et qu'ils habitent loin. Parfois, on essaie de lutter un peu et on refuse de faire venir l'ambulance. Les gens s'offusquent, ils demandent comment ils vont faire, ils disent qu'ils y ont droit. Quand on tient la forme et que les gens sont des chieurs, on leur explique qu'ils n'avaient qu'à pas appeler les pompiers pour une gastro et que c'est leur problème. Quand on est fatigué, quand les gens sont gentils, quand ils ne connaissent vraiment personne pour les ramener, quand ça fait 3 fois qu'on s'engueule avec des patients pour la même raison, quand il pleut, quand ils sont trop vieux, quand ils sont trop saouls, quand on n'a pas dormi depuis trop longtemps, quand c'est Noël, quand c'est comme ça, on appelle l'ambulance. »